Vous êtes sur RTL.
Un nouveau journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et alors, faut-il alléger les contraintes du pass sanitaire? Le débat est ouvert.
Oui, notamment dans les 40 départements où l'épidémie est en très net recul. Emmanuel Macron hésite. Le débat devrait être tranché ce matin au Conseil de défense. Dans les secrets de l'antiterrorisme français, un enquêteur de la DGSI témoigne pour la première fois sur RTL et explique notamment comment l'enquête sur le 13 novembre a permis d'éviter d'autres attentats. Dans ce journal également, la France affirme avoir la preuve de la trahison australienne dans l'affaire des sous-marins. Et puis Lionel Messi est-il vraiment touché au genou ou s'agit-il d'une blessure diplomatique pour soigner l'ego du génie argentin, vexé d'avoir été sorti dimanche dernier face à Lyon.
RTL Matin.
Il y a eu au cours de la semaine écoulée, en moyenne, moins de 7000 cas de Covid détectés tous les jours. La quatrième vague est bien derrière nous. 40 départements donc sont même passés sous le seuil d'alerte. De quoi s'interroger? Faut-il maintenir l'intégralité des contraintes liées au pass sanitaire? Le sujet sera tranché ce matin au Conseil de défense, William Galibert.
Oui, sur le papier, l'horizon se dégage, mais faut-il dès à présent alléger les choses, assouplir les règles dans les départements où ça va mieux? Des réunions préparatoires ont déjà eu lieu. Des scénarios de territorialisation du pass sanitaire sont prêts pour faire du cas par cas. Mais au sein de l'exécutif, beaucoup plaident encore pour la prudence. Il n'y a pas non plus une énorme pression dans l'opinion. Le pass sanitaire est accepté, commente un conseiller. Et puis on manque un peu de recul sur la rentrée scolaire, par exemple, explique un autre. Pas très chaud non plus pour changer tout de suite les protocoles dans les établissements. Il pourrait donc ne pas y avoir d'annonce immédiate. Mais on nous rappelle aussi que, lors de ces conseils de défense sanitaire, Emmanuel Macron a souvent pris tout le monde de court, y compris parmi ses plus proches.
Merci William Galibert. Et parmi d'ailleurs les prudents, il y a le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, et qui affirme ce matin dans le journal Le Parisien que le Covid pourrait revenir plus fort à l'automne, comme l'année dernière, à la faveur de la baisse des températures.
Quant à la présidente du département de Maine-et-Loire, Florence Dabin, et vice-présidente de l'Assemblée des départements de France, elle demande un allègement des restrictions. Elle sera notre invitée tout à l'heure à 6h15.
Et puis le plan blanc est déclenché dans les 10 hôpitaux de la région de Mulhouse. Ça n'est pas le Covid qui flambe, mais le nombre de suspensions de personnel non vacciné. 169 en tout, des opérations qui doivent être déprogrammées. Et ce plan blanc qui permettra également de recruter en urgence des renforts.
RTL 6h02 et ce témoignage rare ce matin sur notre antenne, celui d'un enquêteur de la DGSI.
Il est même celui au sein des services secrets français qui a coordonné toute l'enquête après les attentats du 13 novembre. Thomas Proutot a pu le rencontrer et l'interroger. C'est un homme qui explique notamment que les investigations sur le 13 novembre ont permis d'éviter d'autres attentats.
La satisfaction pour la DGSI, ça a été d'entraver d'autres projets qui étaient menés par ces mêmes personnes. Ça a été de constater que l'essentiel des membres de cette structure a été tué. Et donc c'était de pouvoir réussir à éviter d'autres morts à travers notre action.
Et vous retrouvez ce témoignage rare de cet agent secret en intégral tout à l'heure à 8h20 et sur le site internet d'RTL. Comment les attentats se sont montés, comment Daesh a monté un bureau dédié à la préparation des attaques en Syrie. C'est une plongée rare au cœur de l'antiterrorisme français que vous entendez ce matin sur RTL. En bref, l'enquête après la mort suspecte de deux chiens en Bretagne, des chiens en parfaite santé et qui ont le seul point commun d'avoir fait une promenade sur la même plage des Côtes d'Armor infestée par les algues vertes. Une analyse va être pratiquée. On y revient dans le détail sur ce problème insoluble des algues vertes en Bretagne avec la brigade RTL tout à l'heure à 7h15.
On marque une courte pause et dans un instant, on comprend mieux pourquoi le gouvernement français a parlé de trahison dans l'affaire des sous-marins. Paris affirme avoir la preuve que l'Australie a menti. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois. Et Paris est toujours catégorique. L'Australie a menti dans l'affaire des sous-marins.
Oui, depuis le début, la France affirme n'avoir jamais été mise au courant de l'intention australienne de torpiller le contrat du siècle au profit des sous-marins américains. Face aux dénégations, la France ressort une lettre reçue précisément le 15 septembre, le jour du revirement en Brise du Génie.
Oui, dans ce courrier reçu quelques heures avant l'annonce de l'abandon du programme de sous-marins, le ministère australien de la Défense fait part de sa satisfaction et salue le travail français dans les délais attendus. Un document signé par le directeur du programme, un officier de la marine australienne. Il valide donc l'étape de conception finalisée pendant l'été et demande à l'industriel français Naval Group de passer à la phase suivante, donc d'avancer dans le programme. Militaires et ingénieurs australiens qui travaillent donc sur le partenariat des sous-marins ne semblent pas au courant de la décision politique qui est sur le point d'être annoncée. Le document montre que seuls les dirigeants politiques de premier plan, président et premier ministre, étaient dans la confidence et qu'à aucun moment, les militaires australiens en charge du projet n'ont remis définitivement en cause le programme français.
Merci beaucoup Brice Dugénie. La SNCF abandonne le projet d'agrandissement et de rénovation de la gare du Nord, comme le révélait hier RTL. Ce projet avait été confié à la filiale d'Auchan pour tripler donc la taille de la gare et y accueillir notamment des boutiques. Trop cher, trop de retard, le projet est donc abandonné, au grand soulagement des habitants du quartier Morad Jabari.
Oui, ce chantier était tout simplement le cauchemar de Thomas. Ses fenêtres donnent sur le parvis chaotique de la gare du Nord.
Ça n'avait pas lieu d'être. On est un peu inquiet de la hauteur du bâtiment. Je vois dans mon immeuble qui est face au Sacré-Cœur, aller perdre la vue sur le Sacré-Cœur. Je vais l'annoncer là dans mon immeuble, ça va être une bonne nouvelle.
Et donc la plus grande halle commerciale d'Europe pour la plus grande gare du continent ne devrait pas voir le jour. Les 300 boutiques prévues ne viendront pas troubler les affaires de Pascal, patron d'une brasserie.
Parce que ça va pouvoir nous faire nos petites entreprises qui sont à côté de chez nous, nos petits commerçants. La gare, c'est pas un endroit pour faire ses courses, c'est un endroit de passage et c'est tout, voilà.
Un chantier démesuré, le centre commercial n'était pas la meilleure idée, concède Pierre Coulonnier du collectif Vivre à la gare du Nord. Mais la gare doit offrir absolument un nouveau visage.
Pour nous, ce projet était la possibilité de faire évoluer tout un quartier. Il est évident que l'ensemble de cette gare est un véritable cloaque. C'est sale, c'est n'importe quoi.
Rénover la gare le plus rapidement possible, tous en sont convaincus, mais avec un projet moins commercial et plus au service des usagers et des habitants.
Merci beaucoup, Morad Jabari.
Le football et cette question, Olivier. Le PSG est-il en train de soigner l'ego blessé de Lionel Messi ?
Il était sorti, on s'en souvient, dimanche à la 76e minute, visiblement très agacé. On nous dit aujourd'hui qu'il est blessé au genou. Il est d'ailleurs forfait pour le match de ce soir à Metz. Mais on s'interroge, Philippe Sansfourche, s'agit-il d'une blessure diplomatique pour justifier justement après coup cette sortie prématurée ?
Oui, Lionel Messi avait bien reçu un coup face à Lyon et souffrait du genou, mais suffisamment pour nécessiter un changement. C'est là que se situe la question. Lui, Cristiano Ronaldo, les stars de cette dimension, ne supportent pas d'être sortis. Factuellement, sur les 11 dernières saisons et 370 matchs à Barcelone, Messi n'a été remplacé que 17 fois, autant dire, quand lui le demande. D'où ces images d'incompréhension entre les deux hommes, commentées dans le monde entier. Mauricio Pochettino en est bien conscient.
Non, entendo la situation.
Je comprends et j'accepte les commentaires, ça ne me surprend pas. Mais après 75 minutes de jeu et avec les informations que l'on avait, on a préféré privilégier la santé du joueur. C'est un grand champion et les champions ne veulent pas sortir, mais c'était la meilleure décision.
Messi absent ce soir, Pochettino n'aura pas à trancher. Le seul impératif pour lui et le PSG étant que la star argentine soit bien prête pour disputer un match entier, cette fois-ci dans 6 jours face à Manchester City.
Merci beaucoup Philippe Sansfourche. Metz-PSG, c'est donc ce soir à 21h pour la 7e journée de Ligue 1, en même temps qu'Angers-Marseille ou encore Lyon 3. Avant cela, à 19h, 5 matchs dont Lille-Reims ou encore Monaco-Saint-Etienne. Toutes ces rencontres seront à suivre dans les journaux et dans les flashs d'RTL.
Les courses, elles ont lieu à Amiens.
Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 4, le 3, le 5, le 6, le 10 et le 13. La dernière minute étant le 3.
Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h.